Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, mes bien chers frères, le prédicateur a présenté la personne de notre Père Saint Dominique. Nous allons aujourd'hui parler de son œuvre, l'ordre des frères prêcheurs, et plus précisément, nous allons chercher quelle est sa note caractéristique. Notre ordre, disent nos constitutions, a spécialement été institué pour la prédication et le salut des âmes. Et nos constitutions précisent le moyen pour atteindre ce but. Nous devons poursuivre ce but en prêchant et en enseignant à partir de l'abondance et de la plénitude de notre contemplation, à l'exemple de notre très saint Père Dominique, qui pour l'avantage des âmes ne parlait qu'à Dieu ou que de Dieu. Prêcher et enseigner à partir de l'abondance et de la plénitude de la contemplation, telle est la note caractéristique de l'ordre des prêcheurs que saint Dominique a fondé. Tel est l'exemple qu'il a laissé à ses fils. Saint Thomas d'Aquin résume cette note distinctive dans une brève formule. Contemplari et contemplata aliis tradere. Contempler et livrer aux autres le fruit de la contemplation. Il ne s'agit pas là de quelque chose de nouveau. Contempler et livrer aux autres le fruit de la contemplation, c'est ce qu'ont fait les apôtres. C'est ce qu'on appelle la vie apostolique. Dans la préface de la messe pour la fête de Saint-Dominique, nous rendons grâce à Dieu d'avoir voulu renouveler la forme de la vie apostolique par le bienheureux patriarche Dominique. Apostolicam vivendi formam per beatissimum patriarcham Dominicum renovare voluisti. Nous allons voir dans une première partie que la vie apostolique consiste précisément à contempler et à livrer aux autres le fruit de la contemplation. Puis nous verrons ensuite comment saint Dominique s'y est pris pour renouveler cette vie apostolique. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes furent baptisées. Quelque temps après, à l'occasion de la guérison du boiteux à la porte du temple, 2000 le furent. Alors, lisons-nous dans les Actes des apôtres, le nombre des disciples augmentant, des plaintes s'élevèrent au sujet du service de chaque jour. Mais les 12, ayant convoqué l'assemblée des disciples, dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez donc parmi vous, frères, 7 hommes de bon renom, remplis d'esprit et de sagesse, que nous établirons dans cet office. » Quant à nous, nous serons assidus à la prière et au ministère de la parole. Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus. Quant à nous, nous serons assidus à la prière et au ministère de la parole. Nous avons là l'essentiel de la vie apostolique. Les apôtres considéraient que leur tâche consistait à contempler et à livrer aux autres le fruit de la contemplation. En cela, il ne faisait que suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci s'était préparé pendant 30 ans de vie cachée à ses 3 années de vie de prédication. De façon plus immédiate, il avait passé 40 jours dans une longue retraite au désert avant de commencer à prêcher. Puis, pendant sa vie publique, on le voyait souvent s'écarter pour prier, parfois passer la nuit entière à prier. S'étant ainsi préparé dans la prière, notre Seigneur se livrait à la prédication. Oportet me evangelisare regnum Dei, quia ideo missus sum. Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Notre Seigneur a été envoyé pour prêcher. Pendant des siècles, l'idéal de la vie apostolique, unissant la contemplation et la prédication, se transmit dans l'Église. Les évêques s'entouraient d'un collège de prêtres, appelés chanoines, qui vivaient en communauté et pratiquaient la pauvreté. Ces chanoines étaient chargés de la prière publique de l'Église, l'office divin, qu'ils chantaient entièrement au cœur, et ils aidaient l'évêque dans la prédication. Mais avec le temps, une certaine décadence se produisit. La manse épiscopale, c'est-à-dire la caisse commune, fut répartie entre les chanoines. On vit apparaître la vie privée, la ferveur diminua. Des tentatives eurent lieu pour retrouver l'idéal de la vie apostolique. Ce fut par exemple la fondation par saint Norbert de l'ordre des prémontrés au début du XIIe siècle. Saint Dominique voulut lui aussi fonder un ordre de chanoines réguliers. Mais pour mieux retrouver l'idéal de la prédication comme fruit de la contemplation, il fit deux ajouts à la vie habituelle des chanoines de son époque. Les observances monastiques et l'étude assidue de la doctrine sacrée. Ce sont ces deux ajouts qui ont permis à saint Dominique de renouveler la vie apostolique. Traditionnellement, les chanoines se distinguent des moines. Les moines, dont le patriarche en Occident est saint Benoît, cherchent avant tout leur propre sanctification. Selon la parole de l'Évangile, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Les moines suivent notre Seigneur Jésus-Christ en observant la pauvreté, la chasteté et l'obéissance et un certain nombre de coutumes qu'on appelle les observances monastiques. Ces observances monastiques les aident à s'unir à Dieu, à prier. Ce sont par exemple la clôture, le silence, le chapitre des culpes, les jeûnes, etc. Saint Dominique voulut adopter ces observances pour son ordre dans le but de favoriser l'union à Dieu et la contemplation. Mais il ne se contenta pas de cela. Il voulut aussi que ses fils s'adonnent à l'étude assidue de la vérité sacrée. C'est le deuxième ajout qu'il fit à la vie habituelle des chanoines de son époque. Dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, on lit ces paroles de Dieu le Père concernant saint Dominique. Comme bien spécial, saint Dominique choisit la lumière de la science afin de détruire les erreurs qui s'étaient élevées de son temps. Il prit la charge du Verbe, mon Fils unique, et il parut comme un apôtre dans le monde, tant il sema ma parole avec ardeur, dissipant les ténèbres et répandant partout la lumière. Voici ce qu'on lit dans nos constitutions. Puisque l'étude de la vérité sacrée est un moyen nécessaire pour poursuivre la fin spéciale de l'ordre, que nos frères, à l'exemple et suivant l'injonction du bienheureux patriarche Dominique, soient tellement appliqués à l'étude que de jour ou de nuit, à la maison ou en voyage, ils lisent ou méditent quelque chose et s'efforcent de retenir par cœur tout ce qu'ils pourront. Vous connaissez cette peinture de Fra Angelico représentant notre bienheureux Père lisant un livre posé sur ses genoux. C'est l'image qu'on voit habituellement sur la couverture du sel de la terre. À ce sujet, un contemporain du saint raconte. Il s'asseyait posément et ouvrait un livre devant lui en s'armant du signe de la croix. Puis il lisait, et son âme éprouvait une douce émotion comme s'il eût entendu le Seigneur lui parler. Et comme s'il eût discuté avec quelqu'un, on le voyait tantôt faire des gestes d'impatience, tantôt écouter attentivement, contester et lutter, tantôt sourire et pleurer en même temps, tantôt abaisser les yeux et les tenir fixés à terre, tantôt parler de nouveau à voix basse et se frapper la poitrine. Nous savons par la foi que le monde visible qui nous entoure n'est qu'une partie du monde réel. Derrière ce monde visible existe un monde invisible, bien plus vaste, bien plus réel. C'est le monde de Dieu, des anges, des âmes, le monde spirituel, le monde de la grâce. C'est ce monde invisible, bien plus réel que le monde visible, que saint Dominique contemplait dans sa lecture et dans sa prière. Puis, après avoir contemplé, saint Dominique se livrait à la prédication. Sainte Catherine de Sienne eut une vision où elle voyait le Père Tout-Puissant et Éternel, de la bouche duquel semblait sortir le Fils co-éternel. Elle vit d'autre part sortir de la poitrine du Père le bienheureux patriarche Dominique, tout resplendissant de lumière, et elle entendit de la bouche du Tout-Puissant une voix qui prononçait les paroles suivantes. « Ma très douce fille, j'ai engendré ces deux fils, l'un par l'acte générateur de ma nature, l'autre par une adoption toute de charme et d'amour. » Et comme elle s'étonnait grandement que même un saint pût être l'objet d'une telle comparaison et d'une assimilation si sublime, pour mettre fin à cet étonnement, Dieu le Père ajouta plusieurs explications, dont celle-ci. Mon Fils par nature, Verbe éternel de ma bouche, a publiquement annoncé au monde les enseignements dont je l'avais chargé. Il a rendu témoignage à la vérité. Dominique, mon fils adoptif, a de même prêché publiquement aux hommes la vérité de mes paroles, tant aux hérétiques qu'aux catholiques, par lui-même ou par d'autres, non seulement pendant sa vie, mais par ses successeurs, car par eux il prêche et prêchera encore. Mon fils par nature est mon Verbe, mon fils adoptif est le porte-parole de mon Verbe. Voilà pourquoi, par une grâce toute spéciale, il lui a été donné, ainsi qu'à ses frères, de comprendre la vérité de mes paroles et de ne s'en point écarter. Saint Dominique fut extraordinairement zélé pour prêcher. Citons quelques exemples donnés par ses biographes. Le premier est l'épisode qui déclencha sa vocation. Il traversait le sud-ouest de la France et s'était arrêté à Toulouse. Lorsqu'il eut découvert que les habitants de ce territoire, depuis un certain temps déjà, étaient devenus hérétiques, il se sentit troublé d'une grande compassion pour tant d'âmes misérablement égarées. Au cours de la nuit même où ils logèrent dans la cité, saint Dominique attaqua avec force et chaleur l'hôte hérétique de la maison, multipliant les discussions et les arguments propre à le persuader. L'hérétique ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui s'exprimait. Par l'intervention de l'Esprit divin, Dominique le réduisit à la foi. Une autre fois, saint Dominique marchait avec un frère en direction de Paris. Des pèlerins allemands se joignirent à eux pour faire route commune. Parvenus dans un village, les pèlerins allemands les invitèrent et les traitèrent avec abondance. Pendant 4 jours, ils firent ainsi. Alors, le bienheureux Dominique dit en gémissant à son compagnon, « Frère Bertrand, j'ai vraiment scrupule de recevoir ainsi leurs biens temporels alors que nous ne leur semons aucun bien spirituel. Donc, si vous le voulez bien, prions à genoux le Seigneur de nous permettre de comprendre et de parler leur langue, afin de pouvoir leur annoncer le Seigneur Jésus. Après avoir fait ainsi, ils parlèrent avec eux en allemand, à leur grande surprise, en leur prêchant le Seigneur Jésus pendant 4 autres jours. Les témoins au procès de canonisation insistent sur son zèle à prêcher. Citons quelques exemples. Lorsque frère Dominique était en voyage, il visitait les communautés religieuses, à quelque ordre qu'elles appartinssent, et leur adressait la parole pour les exhorter au bien. Presque chaque jour, à moins de nécessité grave, il prêchait aux frères, versant d'abondantes larmes et les faisant pleurer avec lui. Frère Dominique s'adonnait à la prédication assidûment et avec la plus grande diligence. Quand il prêchait, il trouvait des accents si bouleversants que très souvent, il s'émouvait lui-même jusqu'aux larmes et faisait pleurer ses auditeurs. Si bien que jamais le témoin n'a entendu un homme dont les paroles excitassent aussi efficacement ses frères à la componction et aux larmes. Sa coutume était de toujours parler avec Dieu ou de Dieu, qu'il fût au couvent, au dehors ou en voyage. Il exhortait les frères à agir ainsi, et même il le mit dans ses constitutions. Le bienheureux Dominique avait une soif très ardente du salut des âmes, dont il était un apôtre incomparable. Il se donnait avec tant de ferveur à la prédication qu'il exhortait et obligeait les frères à annoncer la parole de Dieu de jour et de nuit, dans les églises et les maisons, par les champs et sur les chemins, en un mot partout, et à ne jamais parler que de Dieu. Il poursuivait les hérétiques, auxquels il s'opposait par la prédication, les controverses publiques et tous les moyens en son pouvoir. Dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, on lit cette autre parole de Dieu le Père concernant Saint Dominique. Ce fut un flambeau que je donnais aux hommes par l'intermédiaire de Marie. Demandons à la Sainte Vierge Marie, en ce 8e centenaire de l'entrée au ciel de notre Père Saint Dominique, qu'elle suscite de nombreux enfants à ce saint pour éclairer nos contemporains à l'heure où l'humanité s'enfonce dans la nuit. Qu'elle nous aide, chacun à notre place, à être des apôtres, des petites lumières, ne serait-ce qu'en priant le chapelet et en le faisant connaître, en sorte de pratiquer à notre mesure cet idéal « contemplari et contemplata aliis tradere ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.